Chers amis, chers frères et sœurs, qui sait ce que Dieu est capable et désireux de faire dans une vie quand on se tourne vers lui de tout son cœur? Ces quelques témoignages, donc, parmi bien d'autres qu'on pourrait partager, et qui nous rappellent que jamais Dieu ne méprise le temps des faibles commencements, ni ceux qui ont à cœur d'être fidèles dans les petites choses. Personne n'ignore aujourd'hui l'importance des petits commencements. La vie débute par un germe imperceptible. Les plus terribles maladies sont dues souvent à l'entrée dans notre organisme d'un microbe ou d'un virus invisible. Les plus belles œuvres de l'amour chrétien, comme les plus terribles manifestations du mal, ont commencé ici-bas, d'ordinaire, sans que les hommes y prennent garde, tant elles étaient microscopiques à l'origine. Il en est ainsi de la carrière de plus d'un de nos missionnaires qui ont été amenés à leur glorieuse vocation par des événements apparemment sans importance. Jean Egede, c'est ainsi donc que le premier missionnaire du Groenland, celui qui fut le pionnier de la mission dans ces contrées glacées, devenu depuis le séjour d'un vrai printemps spirituel, Jean Egede donc entendit en 1709 son premier appel de Dieu en lisant au soleil de minuit, solitaire dans son humble cure de pasteur, un livre sur les légendes du Groenland. Il paraissait seul. En réalité, Dieu était là, cherchant par cette lecture à lui ouvrir les yeux sur l'état lamentable du Groenland et de ses habitants. Il fit alors cette simple et enfantine prière. « Ô Dieu, s'il est vrai que là-bas, il y a des gens privés de l'Évangile, envoie-moi. » 12 ans plus tard, après avoir surmonté toute espèce de difficulté, il s'embarquait à Bergen pour aller porter aux Esquimaux, grossiers et sauvages, ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur, la bonne nouvelle de Christ. Un siècle plus tard, à Londres, un jeune apprenti quincaillier attendait un soir, dans la rue, un ami, plus ou moins léger, avec lequel il devait passer sa soirée au café. Ce n'était pas un mauvais sujet, loin de là, mais son cœur n'appartenait pas au Seigneur. Il pouvait subir de mauvaises influences et très mal tourner. La femme de son patron, passant par là, le voyant ainsi seul et désœuvré, lui proposa de l'accompagner à un culte dans une église du voisinage. Il accepta, et le soir même, il était saisi par la grâce de Dieu. Converti au Sauveur, il se mit à son service, et quand peu de temps après, il apprit que la Société des Missions de Londres demandait des jeunes gens pour son œuvre, il s'offrit, fut agréé et partit pour les îles de la Polynésie. Cet apprenti quincaillier n'était autre que John Williams, le célèbre missionnaire des îles Harvey et Fidji et des Nouvelles-Hébrides. Quand il mourut, martyr, à Eromanga, à l'âge de 45 ans, il avait, dit-on, amené à l'Évangile plus de 300 000 païens. Lors d'un de ses voyages à Londres, il put montrer de la tribune la place où Dieu l'avait appelé grâce à l'aimable invitation d'une chrétienne. Vers la même époque, un jeune jardinier écossais se rendait un jour en ville pour faire des commissions. En traversant une rue, son attention fut attirée par une affiche annonçant pour le soir une conférence missionnaire donnée par un pasteur du nom de Robbie. Il n'hésita pas à y aller et ce fut là qu'il entendit clairement l'appel du maître lui demandant sa jeunesse et son cœur pour l'œuvre missionnaire. Il avait 21 ans. Ce jeune jardinier, gagné par une affiche, n'était autre que Robert Moffat, l'intrépide missionnaire du sud de l'Afrique, celui qui amena au pied du Sauveur le chef africaner que tous redoutaient comme le tueur d'hommes. Et savez-vous comment le plus connu et le plus distingué des voyageurs de l'Afrique, David Livingstone, fut amené à sa merveilleuse carrière de missionnaire d'abord, d'explorateur ensuite? Par une conférence que Robert Moffat donna à Londres, alors que Livingstone étudiait la médecine. Il fut tellement saisi par les récits du missionnaire, dont il devint plus tard le gendre, qu'il quitta tout pour suivre le Seigneur jusqu'au centre de l'Afrique et préparer ainsi à l'œuvre de la mission des voies nouvelles. Il sut exciter l'admiration des savants par ses recherches scientifiques de première importance. Il sut aussi gagner le cœur des pauvres autochtones car il les aimait tendrement et ne les maltraitait jamais. Le souvenir qu'il laissa en mourant fut tel que des hommes de son escorte, après avoir embaumé son cadavre, entreprirent un long voyage à pied pour le transporter sur leurs épaules jusqu'à la côte de Zanzibar. Combien Dieu est capable d'appeler, aujourd'hui encore, pour qu'on se tourne vers lui et pour qu'on le serve. Nous voudrions ouvrir ensemble maintenant la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 29. Évangile de Luc, chapitre 19 et au verset 29. Là, il est question du Seigneur Jésus. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Eh bien, prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour les témoignages qui peuvent toucher notre cœur de ce que tu as pu faire dans d'autres vies et au travers d'autres vies qui ont bien voulu se consacrer à toi pour te suivre et te servir. Nous te remercions, Seigneur, de ce que, en ce jour aussi, si quelqu'un se tourne vers toi, eh bien, tu agis encore pour véritablement le visiter, le bénir, le former pour ton service et le conduire dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour elle ou pour lui. Merci notre Dieu, béni sois-tu. Et merci parce que tu nous aides aussi à saisir et à comprendre en ce jour le message de ta parole. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'âne. Notre passage nous parle d'un âne qui a été mis au service du Seigneur Jésus, même si évidemment il n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait, mais malgré tout, au travers même de ce récit, nous avons des images importantes et précieuses à retirer pour nous-mêmes. L'âne est un animal qui est capable, dit-on, du meilleur comme du pire, comme l'homme. Au contraire de ce qu'on croit souvent, l'âne est un animal très intelligent. Fort heureusement, on ne remet plus aujourd'hui le fameux bonnet d'âne avec ses deux grandes oreilles au plus mauvais élève de la classe, parce que cette punition humiliante ne servait à rien, sauf à ridiculiser et à faire souffrir inutilement quelqu'un déjà en difficulté. Par contre, ce qu'on ne sait généralement pas aujourd'hui, c'est que ce fameux bonnet avait autrefois une toute autre signification. Pendant très longtemps, en effet, l'âne a été vu comme un animal très intelligent. Des études récentes ont montré du reste que nos ancêtres n'avaient pas tort. Si l'âne se montre parfois têtu, en réalité, son comportement semble traduire prudence, attention, circonspection. D'autres ajouteront que c'est sa forte personnalité qui fait de l'âne un éternel insoumis. Il ne vous rendra service que s'il vous a accepté comme membre de, entre guillemets, sa famille. Il est tellement attentif qu'il s'arrête s'il perd un bout de paquetage. Mieux encore, s'il part seul, avec moins de 5 ou 6 personnes, il s'immobilise dès que l'une d'elles s'est éloignée du groupe. Il ne redémarrera que lorsqu'elle se sera rapprochée suffisamment. Quelle attention ! Quand on pense qu'un cheval ne s'arrête pas toujours quand il perd son cavalier. Ainsi donc, l'histoire du bonnet d'âne a toujours été prise à l'envers. En réalité, le bonnet d'âne était mis sur la tête des cancres pour leur faire transmettre l'intelligence de l'âne. Mais ce que lui a fait cette réputation de bêtise, c'est son insoumission et son obstination dans des circonstances dont certaines ont pu apparaître comme effectivement bien stupides. Et combien ceci nous parle aussi de l'intelligence de l'homme, qui est bien réelle. Mais là encore, son obstination butée lui a valu d'agir de manière stupide dans bien des cas. Le livre des Proverbes nous rappelle que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Et cette image, c'est pour nous faire comprendre qu'un peu de folie l'emporte sur beaucoup de sagesse et de gloire. Et que d'exemples de cela nous avons dans la parole de Dieu. Voici Pharaon d'Égypte, s'obstinant à ne pas laisser partir Moïse à Israël et Israël, et les grands dommages que cela va occasionner pour lui-même et pour son peuple. Et puis vous avez Saül, roi d'Israël, qui résiste à Dieu pour empêcher David de devenir roi, par jalousie, obstination insensée, et la triste fin qui en fut pour la conséquence pour lui et même pour d'autres. Et même Jonas, un homme de Dieu, qui s'obstine à vouloir que les Ninivites soient frappés par le jugement, sans tenir compte de la grâce de Dieu pour eux. Voyez Dieu qui lui parle et qui lui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et lui qui répond « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Ce serait risible si ce n'était pas aussi tragique. Que l'homme donc ne se confie pas dans son intelligence et ses capacités, mais qu'il se confie en Dieu, qui seul peut le garder des failles destructrices de son propre caractère et le faire changer à ce niveau par sa puissance. Et puis voyez maintenant, après cette introduction, voyons que l'âne et l'homme sont trop souvent liés en ce qui concerne, on pourrait dire, la sottise et la suffisance. Les fables de Jean de La Fontaine ont été composées entre 1668 et 1694, et il s'agit d'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Et nous savons que l'âne y occupe une place de choix, puisqu'il fait partie des animaux qui y interviennent le plus souvent, 16 fois en fait. Et voici par exemple cette fable qui s'intitule « L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel », que je vous lis. Un ânier, son sceptre à la main, menait un empereur romain deux coursiers à longues oreilles. L'un d'éponge chargé marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par monts, par vaux et par chemins, au guet d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce guet-là, sur l'âne à l'éponge monta. Chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voici mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant, l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Les hommes qui trop souvent ne réfléchissent plus quand ils ont eu un succès, qui se laissent griser par cela, qui se reposent sur leur laurier et qui vont à l'échec. Pourquoi ? Eh bien parce que les situations changent, les circonstances changent également, et puis il vaudrait mieux pour eux qu'ils veillent et se tiennent sur leur garde, se confient en Dieu, qui seul donne la sagesse et le succès à chaque fois pour ceux qui se confient en lui. Là encore, dans l'Écriture, nous avons des exemples et des contre-exemples. Voici le cas de Samson. Samson qui dit « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Il ne savait pas, est-il marqué, que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quelle misérable fin après tant de succès, parce qu'il avait cru que cela continuerait toujours, que Dieu le secourrait toujours, sans qu'il ait besoin de changer lui-même de comportement et sans qu'il ait besoin de se remettre en question. Dans le livre de Josué, nous avons le cas de la défaite d'Haï. Pourtant, c'était le temps de la conquête de Canaan. Une victoire signalée avait été remportée à Jéricho. Et donc, peu après la prise de cette ville, ils avaient cru que tout allait fonctionner de la même façon. Et là encore, eh bien, ils ne voulaient pas se poser de questions. Et ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Et nous savons qu'il y a eu cette défaite qui, heureusement, a pu être rattrapée par une remise en question profonde de Josué et de ceux qui étaient avec lui. À l'inverse, voici la sagesse de David dans son combat contre les Philistins. Après une première victoire, il se retrouve dans des circonstances tout à fait semblables. Même lieu, même manière des Philistins, des ennemis d'attaquer, au moins apparemment. Et il aurait pu se dire qu'il allait remporter la victoire sans plus se poser de questions. Mais il cherche la volonté de Dieu. Et celui-ci va lui indiquer un autre chemin et un autre moyen. Et c'est ainsi que David va être victorieux encore Et c'est parce qu'il agissait ainsi à chaque fois qu'à chaque fois aussi Dieu le secourait. Ceci nous amène à un deuxième grand chapitre. Revenons à notre âne. L'âne et l'homme sont trop souvent liés en ce qui concerne la vanité et l'orgueil. En particulier pour s'attribuer ce qui normalement revient à Dieu. Ils préfèrent se glorifier eux-mêmes au lieu de glorifier Dieu. Voici la très courte mais très significative fable de l'âne portant les reliques. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit, une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Et là aussi, que de leçons qui sont contenues dans la parole de Dieu à propos de l'attitude des uns ou des autres et qui doivent nous être autant de leçons d'avertissement, tellement ces tendances sont également en nous. Voici l'orgueil d'Absalom. À cause de sa bonté, à cause de sa position de fils de roi, autant de choses dans lesquelles il n'a en fait aucun mérite. Et son ambition dévorante lui fera se faire construire un monument à sa propre gloire. Et ça le mènera également à sa perte. Voici également, dans le livre du prophète Daniel, l'orgueil de Nebuchadnezzar qui est mis en évidence. Lorsqu'il est là, sur le balcon de son palais, et qu'il se dit « N'est-ce pas là, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et nous savons qu'il a été immédiatement abaissé par Dieu et qu'il s'est retrouvé dans une position extrêmement humiliante pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse, comme il est légitime, que c'est Dieu qui doit être glorifié, et ceci d'ailleurs aussi pour son propre salut. Et même parmi les disciples de Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, nous retrouvons aussi cette tendance à l'orgueil, la réalité de cet orgueil, chacun voulant la première place. Assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu reviendras, il n'avait pas si peu compris l'esprit d'humilité et de service qui caractérisait Jésus lorsqu'il leur dit « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert ». Il ajoutait « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Un troisième élément intéressant, c'est que l'âne et l'homme se rejoignent trop souvent en ce qui concerne l'intérêt personnel mal compris. Et là encore, la fontaine vient à notre secours pour nous aider à le réaliser. Voici la fable du cheval et de l'âne. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois, et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu, autrement il mourrait devant qu'être à la ville. « La prière, dit-il, n'en est pas incivile. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. » Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade. Et reconnut qu'il avait tort. Du baudet en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. Ah, quoi que les hommes puissent penser, l'égoïsme humain n'est pas sans conséquence pour ceux-mêmes qui le pratiquent. Et là encore, combien l'Écriture nous place devant nos responsabilités. Celui donc qui peut faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, avec tout ce que cela suppose comme contrariété de la part de Dieu, comme manque de bénédiction, comme jugement de sa part, et finalement comme perdition éternelle. Ah, le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare est là pour nous le rappeler, pour nous avertir très solennellement de l'incrédulité de ce mauvais riche, de son égocentrisme. Et là aussi, eh bien, les conséquences le suivent jusqu'en l'éternité. Souvenons également, dans le livre des Juges, du cantique de Déborah. Lorsqu'elle s'adresse aux habitants de Méroz et dit « Maudissez, maudissez Méroz, pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas venus au secours de ceux qui combattaient contre cet ennemi féroce qu'était Sisera, chef de l'armée de Jabin, roi de Canaan. Alors qu'ils auraient pu le faire, alors que leur secours aurait été crucial, eh bien, bien sûr, sans parler aussi de ceux qui auraient pu venir aider, qui ne l'ont pas fait, auxquels un reproche justifié est également adressé lorsqu'elle compose et proclame ce cantique sous l'action de l'Esprit de Dieu. Et rappelons-nous encore que dans Matthieu chapitre 25, le jugement proclamé par le Seigneur au dernier jour, au jour du grand jugement justement, vient contre ceux qui n'ont pas secouru les malheureux, qui n'ont pas visité les prisonniers et les malades alors qu'ils auraient pu le faire, car est-il marqué, c'est à Jésus qu'ils n'ont pas fait ces choses. Il nous a dit qu'ils iront au châtiment éternel, mais les justes, eux, à la vie éternelle. Et il y aurait encore plusieurs fables de La Fontaine mettant l'âne en scène avec des rapports privilégiés avec les humains. Vous avez par exemple l'âne vêtu de la peau de lion qui nous parle de l'effronterie, de l'insolence. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde, etc. Vous avez aussi l'âne et son maître, donc qui nous parle de l'insatisfaction, du mécontentement de son état. Et la leçon, c'est notre condition jamais ne nous contente, le pire est toujours la présente. La pire est toujours la présente. Mais la fable la plus intéressante est sans doute celle des animaux malades de la peste. Et ceci nous parle de l'âne en tant que bouc émissaire. Et là, nous lisons encore. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis, pour nos péchés, cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez, moutons, canailles, sottes espèces, et saint péché. Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens, querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, j'ai souvenance qu'en un près de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria, haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa pécadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La suite est connue, on n'eut pas besoin de preuves pour accabler le pauvre animal. Tout le monde lui tomba dessus, lui fit subir les pires traitements, d'où l'expression « haro sur le baudet ». Et le lecteur de la Bible ne pourra s'empêcher de faire le parallèle avec ce qui est arrivé à Christ. N'a-t-on pas dit à son sujet, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » C'est ainsi que l'on décida de sa mort alors qu'on le savait innocent. Et aujourd'hui, c'est souvent Dieu lui-même qui est le bouc émissaire, celui que l'on accable de tous les maux, qui n'a pas entendu ou peut-être même dit lui-même si Dieu existait. Il n'y aurait pas tant de misère en ce monde. Ou lorsque j'arriverai devant Dieu, je lui demanderai compte de toutes ses injustices, je lèverai le poing contre lui. Affirmer cela, oser affirmer cela, c'est oublier que les hommes sont responsables de la plupart des problèmes sur terre. Hélas, de tout temps, l'homme n'a rien trouvé de mieux pour se disculper que d'accuser autrui de ses propres péchés et de ses propres culpabilités. Mais si on peut oser un parallèle entre Christ et l'âne de Jean de La Fontaine, il y a néanmoins deux différences fondamentales. Déjà, c'est Jésus-Christ lui-même qui a voulu prendre le rôle du coupable à notre place, pour souffrir le châtiment que nous méritions, alors qu'il était lui le seul pleinement et parfaitement innocent. Et surtout, ce n'est pas une fable. Alors ceci nous amène à cette nécessité de venir à Christ aujourd'hui, pour être pardonné de tout péché, pour être délivré par sa puissance de quoi ? Eh bien, si nous revenons sur ce que nous venons de voir, de l'obstination butée, qui a pu faire tant de dégâts déjà dans notre vie. Revenir aussi de la sottise de la suffisance, qui font qu'on croit savoir mieux que les autres, et ne pas chercher la vie, le conseil, et surtout le conseil de Dieu, la volonté de Dieu. Revenir ensuite de la vanité de l'orgueil, qui nous font nous pavaner, nous croire quelque chose, alors que nous devrions rendre gloire à Dieu. Revenir également de l'intérêt personnel mal compris, qui nous fait pécher terriblement en ne faisant pas le bien que nous pourrions et donc devrions faire. Revenir enfin de l'insatisfaction et du mécontentement de notre état qui proviennent de l'ingratitude, de la dureté de notre cœur et de son manque de reconnaissance. Voici la prière de l'âne selon Dieu, qui doit être notre prière. Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Donne-nous d'avancer tout droit en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures et à l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous ambitionnons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne jamais désespérer de ta miséricorde si gratuite pour ces ânes si disgracieux que nous sommes, d'après ce que disent les pauvres humains qui n'ont rien compris, ni aux ânes, ni à toi qui as fui en Égypte avec un de nos frères et qui a fait ton entrée prophétique à Jérusalem sur le dos d'un des nôtres. Et puis une dernière recommandation, basée sur l'histoire d'un vieil âne, qui nous appelle à faire confiance au Seigneur, jour après jour, au milieu même des difficultés. C'est l'histoire de ce fermier qui avait un vieil âne, très vieux et bien faible. Et un jour, il trouva la pauvre bête qui était tombée dans un trou profond. « Mon pauvre vieux, dit-il, que vais-je faire de toi ? Jamais je ne pourrai à moi seul te tirer de là. Chercher du secours, ce serait bien difficile, bien coûteux, plus que tu ne vaux. D'ailleurs, même si on t'en tirait, tu ne vivrais plus bien longtemps. Non, décidément, il n'y a qu'une chose à faire. Je vais tout simplement t'enterrer là, au fond. » Sur quoi le fermier prit une pelle et se mit à jeter la terre dans le trou. Il était vieux lui-même, un peu sourd, plus très robuste. Il pelletait sans regarder dans le trou, car cela lui faisait tout de même de la peine d'enterrer son âne. Et la terre tombait, pelletée après pelletée. De temps en temps, le fermier s'arrêtait pour s'éponger le front. Le tas de terre diminuait peu à peu. Enfin, il s'arrêta et se retourna pour voir si le trou était bien rempli. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de se trouver nez à nez avec son âne qui le regardait paisiblement. Il n'avait pour finir plus qu'un petit effort à faire pour gagner la surface, car chaque fois qu'une pelletée de terre tombait, il la secouait et la piétinait. À nous d'agir ainsi, au lieu de nous laisser enterrer, de nous laisser accabler et ensevelir peu à peu sous les attaques, critiques, difficultés et épreuves. Marchons dessus. C'est en tout cas ce que la foi en Jésus-Christ permet. Amen. Mais Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que c'est vrai, dans toutes ces choses, nous voyons que c'est le fait de se confier en toi qui nous rendra effectivement vainqueurs. qui nous permettra d'être en cette bonne position, tu pourras exaucer nos prières, et qui nous permettra d'avancer dans le bon chemin, et qui nous permettra aussi, au bout du compte, bien de parvenir à la cité de gloire céleste, ce qui est ton désir pour tous les hommes. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et merci pour toute grâce que tu répands sur tous ceux qui ont ta parole à cœur, Seigneur, ceux qui veulent justement la serrer dans leur cœur et qui veulent la mettre en pratique avec ton puissant secours. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, eh bien, il me reste simplement à vous rappeler que le culte aura lieu dimanche à 9h45 à l'église, Dieu voulant. Donc tous ceux qui veulent y assister peuvent le faire, à condition de s'inscrire d'avance pour qu'on puisse préparer l'accueil. Ensuite, je voudrais rappeler aussi que ceux qui veulent continuer à participer à la distribution d'invitations dans les boîtes aux lettres à Chalon, donc à leur rythme, peuvent s'inscrire aussi par téléphone. Et on leur donnera leur plan de travail avec les traités dès que possible. La réunion de prière, enfin, est programmée pour mercredi à 20h15 à l'église. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance pour y participer. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous fortifie en lui. Amen.